Murajo. Et toi, Pierre Wallon. Et c'est tout ce que je sais. Ah, deux autres mots. C'est un plaisir d'être ici dans cette nouvelle église. Enfin, nouveau pour nous, mais... ouais, elle est pas mal, hein. Un peu frais. Pourquoi, ouais. Mais je tenais à vous voir avant de partir, parce que, comme vous savez, mon successeur a été élu, il sera consacré à Paris, dans notre cathédrale, le 6 avril. Donc, moi, on me nomme pour aller travailler comme évêque en Haïti. Ouais, donc, il y a ça aussi, hein. Pour 2 ou 3 ans, pour les aider à se remettre sur pied, ils ont des problèmes. Ma patronne parlait créole haïtien. Oui, ça veut dire je t'apprends à parler le créole haïtien. Plus le temps de penser au Kinyarwanda. Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est cette épître de saint Paul. Pourquoi vous ne dites pas, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, hein? Et il finit en disant, mais c'est un fait, le Christ est ressuscité d'entre les morts, les premiers, le premier d'entre les morts, les prémices d'entre les morts. C'est après tout notre... s'il vous plaît, pouvez me fermer la porte, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Il fait déjà assez froid. Donc, pour nous, c'est évidemment le premier et la plus importante doctrine de notre foi. Et saint Paul le dit, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est nulle, vos morts sont perdus, et nous qui proclamons cette foi, nous sommes des objets de pitié. Hein? Donc si ce n'est pas vrai, il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de salut, il n'y a que ce monde que nous connaissons un peu trop bien. Alors voyons voir cette question, parce que déjà je dois dire qu'en français, on a un peu de problème de vocabulaire, parce qu'on dit les ressuscités d'entre les morts. Mais on fait aussi aux urgences des ressuscitations, n'est-ce pas? On massage le cœur, on donne des perfusions, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça, la résurrection. Alors les Anglais, ils ont quand même la possibilité d'utiliser le verbe « resurrect », mais nous, il faut trouver autre chose. Hein?
Wallon
est rafiqué,
ressuscité,
rafiqué. Ah oui,
rafiqué. Rafiqué,
Wallon. Ah ben dis donc, hein, les Wallons. Alors c'est encore une autre langue à apprendre, hein. Il y a la petite tête. Mais c'est pour dire que le Christ était vraiment mort. Et son cadavre était enseveli au tombeau. Il était massacré. Son corps meurtri, exsangu, aucune possibilité qu'il se réveille. Alors, comment comprendre ça? Alors, commençons par le texte de la Bible. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Enfin, moi, si j'écrivais ça, je dirais l'inverse. Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, il n'y a pas de résurrection. Et saint Paul dit l'inverse. Pourquoi? Parce que, il dit aux Philippiens, il est du parti des pharisiens. Vous vous rappelez que parmi les juifs de l'époque, il y avait plusieurs partis. Il y avait les pharisiens, toujours en train de poser des questions pièges à Jésus, mais il y avait aussi les sadduciens, ceux qui tenaient au culte du temple, le temple qui a été entièrement détruit par les Romains plus tard. Il y avait d'autres groupes, d'autres sectes, Par exemple, ceux qui ont écrit les écritures de la mer morte, dont on parle beaucoup. Donc, quelle est la différence? Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts au dernier jour. Et Jésus, il en parle, parce que lui aussi, il était de ce parti. Il croyait aux anges, il croyait aussi à la fin du monde. Les Sadducéens n'y croyaient pas. Donc, saint Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, le Christ n'est pas ressuscité, parce que déjà, on croyait qu'il y avait la résurrection des morts au dernier jour. Jésus le dit, certains ressusciteront au jugement comme des bons, et d'autres ressusciteront à être condamnés. Vous êtes avec moi? Bon, oui, bah c'est dans le texte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette résurrection? Et là, on commence à trouver toutes sortes d'explications que je trouve personnellement mauvaises, faibles. Par exemple, l'interprétation moderne. Bien sûr qu'il n'est pas ressuscité, il n'est pas réveillé, rien du tout. Le cadavre est resté. Mais l'esprit est sorti de la tombe, et quand Saint-Pierre a coupé le pain en deux avec les disciples, tout d'un coup il s'est rendu compte, il est vivant. Ça ne tient pas debout, hein. Peut-être que certains trouvent ça réconfortant, mais le fait, saint Paul le dit, et il a raison, le fait, c'est que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Bon, alors, si c'est vrai, ces mythologies un peu modernes ne tiennent pas la route. Mais il y a une autre mythologie un peu contraire, qui s'est réveillée. Il a donné un coup de pied à la pierre, tomba, qui a roulé comme ça, puis il est sorti, les gardiens l'ont vu. Ah ! Ben non. C'était pas ça non plus. C'est pas un super-héros qui est sorti de la tombe. Alors, c'est quoi ? Et là, nous devons aussi interroger les évangiles. Et nous remarquons une chose que les quatre évangélistes ont en commun. Chacun est construit un évangile, sa biographie de Jésus, si vous voulez, très spéciale biographie, mais construit de façon très, très intelligente, n'est-ce pas? Comme de bons écrivains. Matthieu s'adresse aux juifs chrétiens. Il est toujours en train de parler ce qu'a dit les prophètes et que c'est venu en Jésus. Marc, il écrit en quelque sorte des souvenirs de Saint-Pierre. Luc, il fait une histoire de ce qui est passé entre nous pour un certain Théophile. Tout début de l'évangile de Marc, de Luc, pardon, il dit au Théophile, je vous ai fait un compte-rendu de ce qui s'est passé entre nous, parmi nous. Et il reprend ça aux Actes des Apôtres. C'est aussi le début. Je reprends au Théophile le compte-rendu de ce qui s'est déroulé parmi nous. Saint Jean fait toute une théologie. Au début était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Vous connaissez ça, hein? Vous connaissez votre Bible. N'est-ce pas? Tout le monde ici connaît votre Bible. Oui, tout le monde. Oui, ça va? Vous me suivez là? Ok, d'accord, parce que vous êtes un peu, comment dirais-je, je voudrais un peu plus d'animation, si vous, ah oui, c'est pas ma culture, si vous êtes des Français, je comprends. Mais remarquez, ces quatre belles histoires, les évangiles, quand ils arrivent à raconter la résurrection de Jésus, tout casse, tout devient flou et bizarre et curieux. Par exemple, saint Marc, il écrit tout le long l'évangile de Jésus, la crucifixion, c'est le Fils de Dieu, et Les femmes vont au tombeau, ils retrouvent un jeune homme en blanc, qui dit, il n'est pas là, il est ressuscité. Et les femmes s'enfuient en courant parce qu'elles avaient peur. C'est quoi la fin d'une histoire comme ça? C'est la fin de sa marque. La même chose un peu avec Matthieu. L'ange dit aux femmes, dites aux disciples de rencontrer Jésus à Galilée, sur la montagne. Hein, vous vous rappelez? Ils arrivent, les 11, ils voient Jésus, mais certains doutaient. C'est quoi la fin? C'est la fin de ça. Et il y a la grande commission, aller dans toutes les nations et faire des disciples, etc. Saint-Luc, c'est un peu plus connecté parce qu'il y a encore les actes des apôtres après, l'ascension, la Pentecôte et tout. Mais ça se termine, vous allez recevoir le pouvoir d'en haut, dans quelques jours. Et Saint-Jean termine très bien. Il dit, ces choses sont écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie en son nom. C'est bien. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il rajoute tout un autre chapitre où Jésus rencontre les pêcheurs. Vous rappelez, il est en train de leur cuire leur petit déjeuner sur la plage. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Les disciples n'ont pas compris ce qu'ils ont rencontré. Ils n'ont pas pu saisir parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est d'être ressuscité d'entre les morts. On ne sait pas ce que ça veut dire, la résurrection. Par contre, je vous rappelle, dans la sélection de ce chapitre 15 de la première lettre des Corinthiens, la semaine dernière, Saint Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai transmis comme de la plus haute importance ce qu'on m'a appris, que le Christ est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité entre les morts d'après les Écritures. » Entrez. Alors c'est quoi ça? Alors voilà, on peut dater la première lettre des Corinthiens assez bien grâce à des découvertes archéologiques. Donc il a écrit vers 55, c'est-à-dire 20 ans après la conversion de Saint Paul. Il a été converti vers 35. Jésus, la résurrection, en vers 30. Donc, très peu d'années après la résurrection de Jésus, Saint Paul a appris par les autres disciples que selon les Écritures, le Christ est mort. Et selon les Écritures, il est ressuscité. Donc vous voyez, dès le début, les premiers disciples, les apôtres, cherchaient dans leurs Écritures, que nous appelons l'Ancien Testament, pour comprendre ce qui se passait. Et oui, les Écritures témoignent au Messie, mais aussi, si vous avez des amis juifs, ils vous diront, ah non, c'est pas comme ça, le Messie. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est qu'ils ont rencontré? Les apôtres savaient que c'était Jésus. Marie-Madeleine, elle n'a pas reconnu tout de suite, mais dès qu'il lui a appelé par son nom, elle a compris que c'était lui. Vous vous rappelez, hein, dans ses écrits, l'évangile de Jean. Il est apparu aux disciples dans Saint-Luc, l'évangile de Luc, il leur demande un morceau de poisson à manger parce qu'il croyait que c'était un fantôme. Parce qu'il était passé à travers la porte, fermé la clé. Alors il savait que c'était Jésus-Christ, mais c'était autre chose. C'était quoi? Et je pense que la clé qui nous donne au moins un aperçu pour comprendre ce qu'est notre résurrection, parce que c'est après tout ce dont on parle, lui il est ressuscité, mais il nous a promis la même chose. Saint Paul dit dans l'autre épître aux Corinthiens, que si quelqu'un est en Christ, cette personne-là est une nouvelle création. Alors vous voyez, Jésus enseveli après sa mort en croix, son corps exsangu, battu, meurtri, massacré, le Saint-Esprit l'a récréé. Pas comme il était avant, mais comme il devait devenir. Donc il avait la forme de Jésus, et c'était un nouvel homme, un homme de l'avenir. Ce que nous sommes appelés à devenir. Et c'est pourquoi on ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est, parce que nous sommes toujours de l'ancienne création. Et dans cette création-là, le monde où nous vivons, qu'est-ce qui compte ? Le pouvoir, l'argent, la beauté, hein ? Les vanités, le vent après, lequel tout le monde court, n'est-ce pas ? Tout le monde de notre temps, c'est des choses qui ne comptent pas. Parce que l'argent s'en va, on perd le pouvoir, la beauté, à part moi bien sûr, mais vous savez de ce dont je parle. Il y a 2 ans, j'ai enseveli feu ma femme, Linda, dans un petit cimetière d'église au sud du Delaware aux États-Unis. Et j'ai acheté 2 pierres tombales, donc la sienne, pour sa tombe, et la mienne. 2 morceaux de granit identiques. Et là-dessus, il y a marqué évêque, bishop, Pierre Wallon, né en. Je ne vous dirai pas. Et puis, c'est intéressant quand même, comment dirais-je, de contempler sa propre pierre tombale, en sachant qu'un jour, personne ne pourra lire cette écriture. Il restera un gros morceau de pierre. Et de penser que personne ne se souviendra de moi. Les passants, ils verront ça et se diront, ah bon ? Mes écrits disparus, ma descendance, on avait un arrière-grand-père, je sais pas quoi. Ça, c'est l'ancienne création. C'est comme ça que ça marche. Ce que Jésus-Christ nous promet, c'est une résurrection comme la sienne. Que nous serons et que nous devons déjà, grâce au baptême, des ressuscités, des gens qui ont déjà la vie éternelle en soi, en embryon peut-être, mais qui est déjà en train de nous transformer. De nous transformer en quoi ? De nous transformer en des modèles de Christ. Que nous devenions aujourd'hui le Christ pour le monde. Que nous, le corps du Christ, ensemble, nous avons le pouvoir de porter au monde l'espérance qui est en nous, l'espérance que nous aussi, nous avons la résurrection d'entre les morts, que la mort n'a pas le dernier mot. La vie a le dernier mot. Aujourd'hui, nous allons recevoir 3. Où sont-ils ? Mes 3. Hein ? Allez, Pascal, 2, oui. Et le 3e. Ah, le voilà, ouais. Donc aujourd'hui, nous vous recevons dans notre église, de cette partie de l'église universelle, qu'on appelle l'église anglicane, l'église épiscopale. Mais c'est déjà aussi pour célébrer encore une fois votre baptême que vous avez été appelé par le Christ à partager sa vie, partager la vie de Dieu, une vie qui n'a pas de fin, comme nous tous. C'est ça la résurrection d'entre les morts. Et je vais terminer en disant, si vous n'y croyez pas, paix à vous. Mais ayez le courage de vivre, quand même. Ayez le courage de vivre la vraie vie, de regarder la mort en face, ne pas tomber dans des mythologies. Mais si vous croyez, comme saint Paul, que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Si vous y croyez, vous partagez déjà sa vie. Je dis en embryon peut-être, mais c'est en train de nous transformer et nous devons le vivre. La résurrection, c'est pas après la mort, hein, tout ça. Non, c'est maintenant. Si nous sommes baptisés, baptisés par l'eau et le Saint-Esprit, comme ces trois amis que nous allons recevoir comme frères chez nous, si nous avons ça, la résurrection est déjà là. La nouvelle vie est parmi nous. La nouvelle création, nous sommes en train de la devenir et nous devons la vivre. C'est ça le plus important. Ce n'est pas pour. Quand je serai sous cette grosse pierre de granit, non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit le voir en moi. Et le Christ qui cherche à utiliser tous ceux qui sont parmi ici, comme son instrument, comme sa voix, comme ses mains, comme ses yeux, comme ses pieds, il veut travailler parmi nous pour étendre cette vie éternelle, cette vie de résurrection, cette nouvelle création que nous sommes en train de devenir. Alors faisons comme si c'était vrai, car non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.